les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans sa spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, monsieur le professeur Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous interroge sur la nécessité d'une constitution en démocratie. Cinquième épisode. La constitution est un système ouvert sur l'espace-monde.
Bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Amicus Radio. Alors, pour cet épisode, je vais donc répondre aux questions des auditeurs, mais avant peut-être quelques mots de précision. On a l'habitude, il faut toujours se méfier des habitudes, on a l'habitude de dire chaque État a une constitution et la constitution peut être simplement dans le cadre national. La constitution, c'est la carte d'identité d'un pays et on ne peut pas comme ça faire, dupliquer les institutions, on ne peut pas faire du copier-coller, chaque État a sa constitution. Je crois que ce cadre d'analyse est un cadre d'analyse qui est hérité du 19e siècle, donc il faut le respecter bien entendu, qu'il est hérité du 19e siècle, mais qu'il est aujourd'hui intéressant au moins de remettre en question, au moins de discuter. Est-ce que la constitution, est-ce qu'il y a un lien ontologique entre constitution et État-nation, ou bien simplement un lien historique? Et s'il y a un lien seulement historique, ça veut dire que la constitution peut être pensée dans un cadre post-national. C'est donc dans ce cadre-là que je suis prêt à répondre aux questions de vos auditeurs.
Bonjour, je m'appelle Jérôme. À l'heure de la mondialisation, pensez-vous qu'une constitution mondiale soit possible ?
Alors, bonjour Jérôme. Oui, évidemment, je pense que la constitution mondiale est possible. C'est peut-être une utopie. C'est peut-être une utopie, je veux bien vous l'accorder, mais je crois qu'on vit dans un monde qui a besoin d'utopie. Utopie, c'est le monde qui n'existe pas encore, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas un jour. Et notre société a tendance aujourd'hui à avoir trop le nez sur le guidon et à manquer d'imagination. Donc allons-y. Pourquoi je pense que c'est possible ? Parce que les citoyens de tous les pays, de tous les continents, commencent, alors avec des degrés divers, mais commencent à prendre conscience qu'ils ont des intérêts communs, qu'ils partagent un patrimoine de valeurs communes. Alors, et on le voit par la multiplication des initiatives transnationales. On ne peut pas régler la question du climat à l'intérieur de l'État-nation. C'est pas vrai que le nuage de Tchernobyl s'arrête à Strasbourg et respecte les douanes. C'est pas vrai. C'est pas vrai que le tsunami au Japon ne concerne que les Japonais. Il y a récemment en préparation un pacte international sur la liberté de la presse. C'est pas vrai que on peut s'occuper de la liberté de la presse à l'intérieur des États. Il y a une globalisation économique, vous avez dit Jérôme. C'est vrai. Il faut donc qu'il y ait au même niveau une globalisation démocratique. Et cette globalisation démocratique, elle passe, si vous vous rapportez aux épisodes précédents, elle se construit par une constitution. Et donc, une constitution est non seulement possible, mais elle est nécessaire si on ne veut pas que la globalisation économique se donne ses propres règles. Ou c'est les multinationales qui donneront les règles à notre planète, ou c'est les citoyens du monde qui donneront ces règles s'ils se donnent précisément l'instrument, c'est-à-dire la constitution, permettant de répondre à égalité avec cette globalisation économique.
Bonjour, je m'appelle Constance. Pensez-vous que l'État-nation soit le seul cadre possible pour une constitution ?
Alors Constance, vous savez, le principe de la souveraineté est un principe qui a été, conçu, pensé par Jean Bodin comme un instrument de construction de l'État. C'est-à-dire à un moment où les rois voulaient prendre leur indépendance par rapport au pape, donc ils ont contesté l'autorité du pape, le haut, et ils voulaient prendre aussi du pouvoir sur les seigneurs féodaux, les ducs, les comtés. Et donc, ils ont, par le principe de souveraineté, enlevé des compétences au pape, enlevé des compétences au seigneur, ils ont concentré dans les mains du roi ce qui a créé l'État. Et donc, le principe de souveraineté est un principe qui a construit l'État-nation. Est-ce que l'État-nation, pour répondre à votre question, est la forme indépassable de l'organisation politique des sociétés? Je ne crois pas. Même Fukuyama, souvenez-vous, son bouquin en 90, La fin de l'histoire, même Fukuyama revient sur cette idée. L'histoire, elle continue. Elle continue, l'histoire, comme la démocratie. Elle continue, et si elle continue, cela veut dire que il peut y avoir d'autres formes d'organisation politique des sociétés que la forme étatique. Il peut y avoir une forme post-nationale. Le problème est que nous avons complètement intériorisé le principe de souveraineté nationale au point que c'est devenu un principe quasiment naturel. Et c'est un gros mot que de remettre en cause le principe de souveraineté nationale. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment historique de nos sociétés où il faut inventer un nouveau principe de légitimité. Alors, j'en donne deux possibles. Le principe de coopération loyale entre les peuples ou le principe de l'en commun. C'est-à-dire essayer de trouver ce qui est commun à tous les peuples, conduisant à une coopération loyale entre les peuples, ce qui permettrait de dégager ce qu'on appelle en droit les standards constitutionnels internationaux, un patrimoine constitutionnel mondial sur lequel pourrait se créer une constitution et un espace politique post-national.
Bonjour, Bernard, Paris. Je me demandais, si vous faites une constitution mondiale, que faites-vous de la souveraineté nationale ?
Alors Bernard, je vais reprendre un petit peu la réponse que je venais de faire à l'instant. La souveraineté nationale n'est pas amenée à disparaître avec l'émergence de ce que j'ai appelé à l'instant le principe de coopération loyale ou le principe de l'en commun. Simplement, elle va s'emboîter de manière différente. Si on regarde alors, notre histoire, l'histoire de France, sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas d'État. Il y avait des provinces qui avaient leur propre monnaie, leur propre armée, parfois même leur propre langue. Et donc, pour créer la France, il a fallu qu'on affaiblisse les compétences et la souveraineté de l'Occitanie, de la Bretagne, de la Lorraine, du Béarn, pour créer la souveraineté de l'État français. Ça n'a pas fait disparaître la particularité ou les particularités de l'Espagne, de la Bretagne, pardon, de l'Occitanie, ou du Béarn, du Pays Basque. Mais elles se sont emboîtées avec une nouvelle forme d'organisation politique qu'est l'État. On passait des provinces à l'État. Et donc, c'est superposé, c'est emboîté, un peu comme des poupées russes, hein. C'est emboîté une nouvelle forme d'organisation politique. Il lui fallait un principe de légitimité qui était la souveraineté nationale. Si on a une constitution mondiale, on aura un nouveau principe. Mettons le principe de l'en commun. Eh bien, ce principe de l'en commun viendra s'emboîter dans le principe de la souveraineté, des souverainetés nationales, comme les principes de souveraineté nationale se sont emboîtés dans les principes de légitimité des provinces. Donc, on ne va pas faire disparaître. On va simplement, ce qu'on appelle le multilevel constitutionnalisme, c'est-à-dire les différents échelons du constitutionnalisme, qui vont s'emboîter et qui vont s'articuler de manière différente. Je participe à un groupe de travail qui vise à créer une cour constitutionnelle internationale. Cour constitutionnelle internationale qui serait l'embryon d'une constitution mondiale. On a eu toute une période où on a créé la citoyenneté, la nation. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où il faut aller vers le citoyen du monde. Nous avons des préoccupations, des intérêts communs, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos couleurs de peau, quelle que soit notre géographie, il y a des intérêts communs, et ce sont ces intérêts communs qui nous font citoyens du monde. Comme les intérêts communs nous ont fait au XVIIe et XVIIIe siècle citoyens français. Aujourd'hui, nous avons des intérêts communs qui nous font citoyens du monde, et pour ça, Constitution mondiale. Utopie, rendez-vous dans 40, 50, 100 ans.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.